Alors, je vais partir pour vous présenter un peu la pensée de Spinoza et la pensée de Spinoza en rapport avec la question de l'autre. Je vais partir d'un petit texte de jeunesse qu'a écrit Spinoza et dont les premières pages racontent comment Spinoza, au fond, est devenu Spinoza, comment le jeune Baruch est devenu le philosophe, le grand philosophe Spinoza, le prince des philosophes, comme disait de lui Deleuze. Et au fond, on voit comment dans les premières pages de ce petit bouquin de jeunesse qui s'appelle Le traité de la réforme de l'entendement, le traité de la réforme de l'entendement, comment dans ce petit bouquin, Spinoza se demande au fond comment changer de vie et comment chercher quelque chose qui vraiment en vaille la peine. Au fond, il part d'un constat de départ, qui est que l'expérience nous apprend, en tout cas c'est la première phrase du bouquin, que dans la vie ordinaire, tout est vain et futile. Tout est vain et futile, et on pourrait se dire, bon, bah, la conséquence, c'est que c'est le désespoir, c'est le relativisme général, y a rien qui vaille véritablement. Donc, il pourrait en tirer la conclusion d'une espèce de repli sur soi. Ou bien, au contraire, la conclusion peut être... Eh bien, de croire ou d'espérer en un monde meilleur, mais en un monde, on va dire, dans l'au-delà. Et donc, on pourrait se dire, peut-être à la manière du philosophe Pascal, dans la mesure où rien n'est stable, rien ne vaut ici-bas, eh bien, même si ça relève d'un pari, même si on est certain de rien, mais il vaut la peine de croire en un monde au-delà, qui lui vraiment tienne ses promesses, qui lui en vaille la peine. Et en fait, la solution de Spinoza, elle est un peu étrange, parce qu'il nous dit, l'expérience nous apprend que tout est vain et futile, qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui vaille en ce monde, mais pourtant, dit Spinoza, je résous, je décide, j'affirme mon désir de rechercher quelque chose qui me procure une joie absolue, suprême, totale, éternelle, dit-il même. Donc, il recherche l'absolu. Il y a une recherche de l'absolu. Mais une recherche de l'absolu, on va dire, ici-bas. Et on pourrait se dire, d'une certaine manière, Spinoza part d'une espèce d'égoïsme, ou plutôt d'égocentrisme, c'est centré sur lui. Un égocentrisme de départ, il nous dit, je veux pour moi ce qu'il y a de meilleur. Je veux ce qu'il y a de meilleur, et ce qu'il y a de meilleur, ce serait quelque chose qui me procure une joie absolument indestructible et vraiment qui me réjouisse tout le temps. Quelque chose qui puisse me réjouir tout le temps. Alors, il explique qu'au début, il a essayé de concilier les biens ordinaires de la vie avec la recherche de ce bien suprême. Et les biens ordinaires de la vie, il en distingue trois. Trois biens ordinaires. Ces biens ordinaires de la vie, nous dit Spinoza, et qui nous procurent des joies réelles. Il les regroupe sous trois catégories, et il n'invente pas grand-chose. Il nous dit, il y a l'argent, les richesses, il y a de la joie retirée du confort matériel et de l'argent. Les honneurs, la reconnaissance sociale, le pouvoir, le fait en tout cas d'être glorifié par les autres, d'être reconnu. D'être donc aimé, mais aussi reconnu socialement. L'argent, les honneurs, et ce qu'on pourrait appeler le sexe, la libido. Alors, ça va peut-être au-delà du pur plaisir sexuel, les plaisirs du corps. Mais il nous dit, ces trois plaisirs-là, eh bien, sont des véritables joies. J'ai essayé de concilier la recherche de ces trois biens avec la recherche des biens suprêmes, mais j'y arrive pas. Et il faut que je me consacre totalement à la recherche du bien suprême, mais alors contre toute attente, on va se rendre compte que on tombe pas dans un pur ascétisme qui va mépriser les biens de ce monde pour un autre bien, mais c'est une espèce d'ascétisme d'une certaine manière, mais qui va subordonner la recherche des biens ordinaires, honneur, argent, sexe, à la recherche du bien supérieur. C'est-à-dire que nous dit au fond le problème, c'est quand on cherche ces trois biens-là, comme des biens absolus. Si on les cherche comme des biens absolus, eh bien, on est complètement absorbé par ça, notre esprit est complètement occupé par ça, et ce sont des biens qui ne tiennent pas absolument leurs promesses. Donc, il n'y a pas cette joie totale, totalement épanouissante, que je cherche. Donc, son absolu nous dit, j'ai beau expérimenter, je ne le trouve pas. Dans ces biens qui sont quand même des biens, il ne nous dit pas, c'est des faux biens, détournez-vous complètement de cela. Il nous dit, non, non, ça procure des joies réelles. Mais c'est des biens qui ne tiennent pas totalement leurs promesses et qui surtout nous font dépendre des autres. Et on arrive donc à la question d'autrui, qui nous font dépendre des autres, des passions des autres, et donc qui font que, eh ben, on n'est jamais assuré véritablement d'avoir ce qu'on cherche. Et même quand on obtient ce qu'on cherche après bien des tourments, eh bien, on a une forme de déception qui fait que on n'est pas totalement satisfait. Et ce qu'il veut, c'est véritablement rechercher un bien qui lui fournisse, comme il dit, une nature plus forte, plus ferme. Quelque chose qui soit vraiment comme un absolu. Alors j'ai pris une citation. Telle est donc la fin à laquelle je tends, nous dit Spinoza, acquérir une telle nature, c'est-à-dire une nature beaucoup plus forte que la sienne, et m'efforcer que beaucoup l'acquièrent avec moi. Alors ça, c'est le petit bout de phrase qui est un peu étrange, parce qu'on se dit, tout le début est placé du point de vue de l'égocentrisme. C'est d'abord moi qui me préoccupe de comment changer ma vie, comment avoir quelque chose qui vaille vraiment, comment même éprouver une joie qui soit totalement épanouissante. Et puis il nous dit, fais partie, au fond, de mon bonheur, et ben d'acquérir une nature telle et de m'efforcer que beaucoup l'acquièrent avec moi. C'est-à-dire, il est aussi de mon bonheur, de ma félicité, de m'appliquer à ce que beaucoup d'autres comprennent la même chose que moi, pour que leur intellect et leur désir conviennent tout à fait avec mon intellect et mon désir. Donc il est en train de nous dire qu'au fond, et c'est là encore une fois tout le paradoxe, alors que les premiers biens tiennent pas tout à fait leurs promesses, nous font dépendre des autres, et du coup nous jettent dans des tourments, dans des chagrins qui bien sûr contrebalancent les plaisirs qu'on peut quand même trouver. Là, il s'agit de chercher et d'obtenir un bien, mais dont autrui est une partie constituante, dont autrui est une des conditions pour que je sois heureux. Donc il va falloir trouver au fond un bien qui s'intensifie à être partagé, qui non pas se divise à être partagé, mais qui s'augmente, qui se fortifie à être partagé. Alors c'est peut-être plus tout à fait le même partage, c'est pas le partage d'un gâteau, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on peut se dire on en a moins si on en donne aux autres. Mais c'est un partage qui va augmenter ma puissance, qui va épanouir mon être, et non pas qui va amoindrir eh bien, le plaisir que je peux avoir. Donc on a l'impression que le jeune Spinoza, au fond, part d'un égoïsme, mais d'un égoïsme, selon lui, bien compris, et on pourrait peut-être lui faire des objections, mais que cet égoïsme bien compris, c'est une forme d'altruisme. Et cet altruisme, il vient du fait que pour lui, au fond, c'est dans l'union c'est l'union qui fait la force. C'est dans l'union qu'on va trouver cette force qu'il cherche, la force de ce bien. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'il existe plein de types d'unions différentes, où il y a plein, on va dire, de formes affectives des unions. Et il y a peut-être des unions qui amoindrissent mon être, qui l'affaiblissent, qui nuisent à mon être, et puis d'autres unions avec autrui qui sont beaucoup plus épanouissantes. Alors au fond, Spinoza part déjà d'un constat, il faut revenir là peut-être aux fondamentaux de son éthique, c'est que faire sans les autres, c'est pour ainsi dire impossible, dans la mesure où l'autre, autrui, me constitue. C'est pas qu'il est en face de moi. Seulement. C'est pas qu'il est à côté de moi, c'est pas qu'il faut que je trouve un moyen de m'arranger avec autrui. C'est que, au fond, faire sans autrui, c'est quasi impossible. Et c'est parce qu'il y a cette nécessité de la présence d'autrui que je dois intégrer cette donnée dans la recherche d'un bonheur absolu. Alors, on pourrait aller chercher un petit exemple là, que nous donne Spinoza. Alors il prend un exemple peut-être un peu particulier dans une lettre encore de jeunesse, mais qui est assez touchante, parce que, bon, c'est la lettre à Balling. Balling, c'est un ami à lui, qui lui raconte quelque chose d'assez terrible. Il lui raconte que son fils est mort, qu'il a beaucoup de mal à s'en remettre, mais qu'il a vécu quelque chose de très étrange, Balling, c'est que quelques mois avant que son fils ne meure d'une maladie, eh bien, il a entendu, en rêve, des gémissements, et même au réveil, il a entendu encore un peu ces gémissements, des gémissements qui sont exactement ceux que le fils va avoir quand il va être confronté à cette maladie. Alors il dit à Spinoza, qu'est-ce que tu en penses? Ça me trouble, ça rajoute encore à mon chagrin d'imaginer qu'il y a eu ce rêve prémonitoire. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Enfin bon. Et Spinoza, qui est un rationaliste, hein, parie beaucoup sur les forces de l'intellect, bah, ne méprise pas du tout ce genre de questions, les rêves prémonitoires. À un autre interlocuteur, qui s'appelle Boxell, il répondra très sérieusement aux questions que ce correspondant lui pose concernant les spectres, l'existence des spectres. Alors très sérieusement et en même temps, il fera pas mal d'humour. Parce que Boxell lui dit « les spectres sont des hommes qui font ceci, cela ». Et Spinoza lui dit « mais vous êtes allé y voir, comment vous savez que c'est pas des femmes, les spectres, et comment vous savez que, d'où vous connaissez le sexe des spectres ?» Donc il y aura un peu de taquinerie, mais il y aura de nombreuses lettres sur d'où vient cette perception des spectres, d'où vient notre croyance dans les spectres, etc. Alors là, on revient à cette question du rêve prémonitoire. C'est vraiment une lettre amicale où Spinoza, au fond, dit je pense vraiment qu'il y a eu là un pressentiment, une prémonition, un présage, et il impute l'existence de ce présage au fait que, c'est comme ça qu'il s'exprime, il existe une union étroite entre un père et son fils, surtout lorsque, entre ce père et ce fils, il y avait un tel lien d'amour, et que cette union étroite, fondée sur l'affect d'amour, fait que d'une certaine manière, le père participe de l'essence du fils, et qu'il lui est presque, pas consubstantiel, mais qu'il y a quelque chose du père qui existe dans l'essence même du fils. Et donc, c'est ainsi qu'on pourrait expliquer. Alors, ce que fait là Spinoza, il ne le reprendra pas plus tard. J'ai l'impression qu'il construit une petite théorie ad hoc pour essayer d'expliquer à Balling ce qui lui arrive. La leçon surtout, c'est que Spinoza dit il n'y a pas de sujet noble et de sujet ignoble. On peut essayer de penser tout. Mais surtout, quand il y a du grand chagrin comme ça, quand il y a une demande de la part d'un ami, il faut répondre à cette demande, mais pas par de l'apitoiement, pas seulement par des jérémiades, mais aussi par un effort de réflexion, par un effort de compréhension. Et alors bien sûr, sans doute qu'il faut une certaine forme de doigté, et que c'est peut-être pas dans toutes les situations qu'on va se mettre à théoriser. Mais là, il y a une demande de Balling. Mais il y a quand même toujours ce geste vis-à-vis de l'autre, de la part de Spinoza, de se servir de son entendement, de son imagination, pour essayer de comprendre. Ça, c'est un geste de son éthique qui est très fort. Chez Spinoza, il y a cette formule qui revient souvent, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas mépriser, ne pas maudire, mais comprendre. Donc, face au phénomène de la nature que sont, des cataclysmes, ou que sont les comportements humains, parce qu'au fond, les comportements humains sont aussi des phénomènes, d'une certaine manière, de la nature, la culture étant un produit dérivé de la nature, pour Spinoza, on pourra y revenir, le geste spinoziste, de l'éthique de Spinoza, c'est essayer de comprendre. Et donc, c'est ça qu'il va faire avec Balling, essayer de comprendre. Et au fond, il est en train de nous dire, quand il y a un tel lien d'amour entre deux êtres, d'une certaine manière, l'un participe de l'autre, comme l'autre, sans doute, participe de l'un. Alors on peut se dire, ensuite, bon, il y a des interprétations possibles, on se dit, mais alors ça veut dire quoi? Que, en participant de l'essence de l'autre, en participant de l'autre, j'entends ce qu'il va faire plus tard, j'entends par exemple qu'il va mourir. C'est une question d'autant plus épineuse que chez Spinoza, la mort, elle vient toujours d'une altérité, elle vient jamais de soi-même. Les comportements autodestructeurs sont au fond toujours des comportements qui impliquent une cause qui nous détruit et une cause extérieure. Il n'y a pas jamais, pour Spinoza, de réel suicide au sens propre. Chaque chose fait effort pour persévérer dans son être. Alors Spinoza a bien vu qu'il y a des gens qui se suicident. Mais pour lui, ce suicide s'explique au fond par le fait que des causes extérieures, peu à peu, qui sont contraires à nous, eh bien, nous amène à ce geste-là. Nous faut, mais ce geste-là, ça n'est jamais l'expression de ma puissance d'agir. C'est plutôt l'expression de la faiblesse de ma puissance d'agir face à des causes qui sont plus puissantes que moi et qui, pour le coup, ne s'unissent pas à moi, mais me contrarient, me divisent. Dans le cas d'un affect d'amour, comme celui qui liait Baligne avec son fils, à son fils, là, il y a quelque chose de plus fusionnel, il y a une véritable union. Et au fond, Spinoza ne le dit pas, mais on peut le déduire de ses écrits, ce que pressent le père, c'est pas tant la mort, qui n'est pas du tout inscrite dans l'essence du fils, mais c'est plutôt les gémissements qui, à mon sens, sont comme l'expression de la résistance du fils par rapport à cette mort qui vient. Ce que fait le fils, c'est, dans sa souffrance, c'est tout ce qu'il peut pour essayer de surmonter cette maladie qui est en train, comme un poison. Le poison, c'est vraiment la figure, pour Spinoza, de la mort qui s'insinue en nous. Mais c'est vraiment un corps étranger qui, peu à peu, décompose le nôtre. Et d'une certaine manière, c'est ça la maladie, et toutes les formes de mort, c'est ça. Alors ça peut être une altérité violente, comme ça peut être un poison lent, un poison physique, mais aussi psychique, qui peu à peu nous décompose et font qu'à la fin, il y a destruction. Et peut-être qu'au fond, ce qu'est en train de dire Spinoza, c'est tu participais suffisamment de l'essence intime de ton fils pour anticiper justement cette résistance qui commençait à se faire de ton fils, de la force de vie de ton fils face à cette maladie qui vient. Bon, c'est une interprétation, de toute façon, cette lettre, elle est pas suivie d'énormément d'autres explications. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve qu'elle est symptomatique de la manière dont Spinoza pense les choses. Dans le cas d'un amour, il y a comme une entreparticipation des êtres entre eux. Et d'une certaine manière, autrui toujours participe de nous comme nous participons d'autrui. Alors ça veut dire quand même que plus on est dans la haine, plus on est dans la tristesse, moins on participe des autres. Et moins les autres participent de nous. Ou alors ils participent au sens d'une contrariété. Mais ce n'est pas une vraie participation au sens d'une convenance. C'est le fait qu'on peut être habité par la haine de quelqu'un. Donc on va se dire, bah si, l'autre participe beaucoup de nous. Non, il nous préoccupe. Il est la cause qu'on imagine et qu'on aimerait d'un malheur et qu'on aimerait bien détruire. Mais d'une certaine manière, même s'il nous habite beaucoup, il nous habite comme un poison, justement, qui va peu à peu nous décomposer, dans le cas de la haine. Dans le cas de l'amour, on est vraiment dans une entreparticipation des individus. En tout cas, bon, parfois il y a de l'amour qu'en un seul sens, donc celui qui aime participe de l'autre. En ce sens, il est toujours un peu plus fort que celui qui n'aime pas. Bien, pour Spinoza, d'une certaine manière, sauf à imaginer un être qui soit absolument pas touché par l'affect d'amour, mais ça, je pense que c'est une hypothèse d'école, ça n'existe pas. Un être qui jamais n'ait expérimenté ce sentiment qu'est l'amour, mais pourquoi pas, hein, imaginons un tel être, eh bien, les êtres, pour peu qu'ils aiment un petit peu, eh bien, participent les uns des autres. Et au moins, ont quelque chose en commun, d'actif, avec quelques autres. Bon, parfois, ça fait des unions très limitées. J'aime cela, et puis certainement pas tel groupe. Je me sens proche de tel ou tel type d'individu, mais j'ai une haine cuite et recuite vis-à-vis d'autres individus. Ça, tout à fait. Mais c'est dans ces unions affectives que, et qui passent par l'amour, qu'on peut déceler chez Spinoza cette idée qu'il y a une véritable communauté agissante entre les hommes et que, d'une certaine manière, la question d'autrui, elle se pose, pour moi, parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que, de fait, ce que je le suis en étant constitué par la présence de l'autre. Et au fond, c'est une des intuitions de base de l'éthique de Spinoza, une éthique qui, vous l'avez compris, n'est pas une morale de l'obéissance à des devoirs, de l'obéissance à des valeurs qui seraient au-dessus de nous. L'éthique de Spinoza, ce n'est pas une morale de l'obéissance, c'est avant tout une éthique de la connaissance. Et une éthique de la connaissance, en tant qu'elle produit cette connaissance, des affects. En tant qu'elle permet même de transformer les premiers affects qu'on a en des affects plus actifs, en des affects plus libérateurs. Donc, l'éthique spinoziste, c'est pas seulement une éthique théorique. Je dis pas seulement parce qu'il y a ça aussi, il y a cette dimension théorique. Spinoza jamais ne dira du mal de la réflexion théorique. Mais, pour lui, la philosophie a vraiment un enjeu si elle a cette application pratique. C'est pour ça que son grand livre s'appelle l'éthique. Et il reprend là, on va dire, eh bien, tout un courant de la philosophie antique qui pense en effet la philosophie à partir des effets pratiques que l'exercice même de la philosophie peut avoir sur soi. Il y a des études sur la philosophie antique qui ont montré beaucoup comment la philosophie était constituée pour les anciens d'exercices spirituels qui permettaient de se modifier soi-même. Et chez Spinoza, il y a cette idée qu'au fond, la philosophie en son fond, c'est une réflexion sur l'ontologie, c'est-à-dire la nature de l'être, sur ce que c'est que le corps, l'esprit, c'est une réflexion même sur logique, etc. Mais tout ça, ça n'a de valeur que s'il y a une ambition transformatrice du point de vue des affects. Donc, l'éthique, c'est d'une éthique de la connaissance, mais d'une éthique de la connaissance affective. Et qu'est-ce que j'entends par là, par connaissance affective? C'est-à-dire productrice d'affects, qui a pour objet des affects, et qui a pour ambition de produire des affects ou de transformer les affects que déjà on éprouve. Donc, avec Spinoza, on part d'une éthique qui recherche le bonheur à travers la connaissance, mais qui, d'une certaine manière, cherche cela, comme dirait Deleuze, dans un plan d'immanence. C'est-à-dire en rompant avec l'idée judéo-chrétienne d'un péché originel qui nous condamnerait à la faute et donc à la misère, au malheur. Il y a beaucoup de points communs avec Pascal, mais il y a aussi cette grande différence avec Blaise Pascal, un philosophe du XVIIe siècle, à la même époque que Spinoza. Pascal disant « misère de l'homme sans Dieu ». Pour Spinoza, Dieu, de toute façon, qui est cet être absolument infini, c'est le Dieu de la religion comme des philosophes, enfin de la religion. C'est pas le Dieu de toute religion, bien sûr. Mais c'est cet être absolument infini, mais Spinoza nous dit « s'il est absolument infini, il est en dehors de nous, mais il est en nous aussi ». Il n'est certainement pas dans un au-delà. Donc Spinoza nous dit, Dieu, ce n'est pas un homme en plus grand, mais ça déjà Descartes le disait, ce n'est pas un Dieu créateur au départ et puis juge à l'arrivée, juge et donc qui va châtier nos mauvaises actions ou les méchants et qui va récompenser les bonnes actions ou les hommes qui sont justes, qui sont bons. Au fond, pour Spinoza, de la même manière que les êtres peuvent participer les uns des autres, ce qui est important, c'est de voir que nous participons de Dieu. Dieu, cet être absolument infini, il n'est pas dans un ailleurs, c'est la nature au sens du réel, dans toute son infinité, dont nous sommes des petites portions. Nous sommes des petites portions de réel, et ce réel, on peut très bien l'appeler, nous dit Spinoza, Dieu, c'est-à-dire, c'est à la fois une intelligence infinie, mais c'est aussi une matière en mouvement infinie. Selon Spinoza, la matière n'est pas du tout indigne de la nature divine. Dieu est bien sûr pensée, et bien sûr intelligence, et bien sûr totale perfection, mais il l'est dans tous les domaines, et donc il l'est aussi dans la matière qui n'a pas quelque chose en soi de mauvais. Alors dire que l'homme est une partie de la nature, comme je viens de le dire, l'expression célèbre de Spinoza, c'est « l'homme n'est pas comme un empire dans un empire ». Il n'y a pas de citadelle, il n'y a pas cette fermeture. Et c'est pour ça que la question de l'altérité est tellement importante pour Spinoza. C'est que l'homme n'est jamais refermé, n'est jamais coupé des autres. Il est avec les autres. Alors, il peut l'être plus ou moins. Et parfois, ses obsessions peuvent, de fait, tendanciellement le couper d'autrui. Mais il existe dans un monde à travers lequel, dans lequel il est traversé par l'existence des autres et par les propriétés qu'il a en commun avec les autres. Alors, l'homme est une partie de la nature, ou l'homme n'est pas un empire dans un empire, ça peut se comprendre en deux sens. Le premier sens, un peu limitatif, l'homme est une partie de la nature, ça veut dire qu'il n'a au fond rien d'exceptionnel. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la nature dans l'homme. Ça veut dire qu'au fond, les hommes sont en commerce, les uns avec les autres, qu'ils subissent continuellement les effets les uns des autres, et que ce sont donc des échanges perpétuels avec le milieu biologique, mais aussi avec le milieu symbolique, culturel. Et pour Spinoza, d'une certaine manière, la culture, comme j'ai déjà dit, ça n'est qu'une modification de la nature, ça n'est que ce que les lois qui font la nature humaine produisent, en termes de pensée, d'activité, mais aussi de réalisation matérielle, etc. Donc, l'homme est une partie de la nature, ça veut dire qu'il est en échange perpétuel. Il n'est pas... De même que l'oxygène est absolument nécessaire à mon individualité corporelle, donc ce corps que je suis n'existe pas sans d'autres corps qui lui donnent sa vie, mais qui peuvent aussi le détruire à tout moment, hein. Il y a aussi dans l'air des substances, ou dans mes cheveux si j'en avais, qui pourraient peu à peu me détruire. Ben, il y a dans l'altérité beaucoup de choses qui me nourrissent, qui me sont même absolument essentielles, qui même font que je participe, ou qu'elles participent de moi. Et il y a aussi des choses dans l'altérité qui me détruisent. Être une partie de la nature, ça veut dire être une partie finie. Mais cette partie finie, cette limitation, elle n'est même pas négative pour Spinoza, elle dit juste... Ben, comme vous êtes des êtres finis, vous êtes dans des échanges perpétuels avec d'autres êtres finis. Et tout l'enjeu, ben, c'est de faire en sorte que ces échanges puissent vous renforcer et non pas vous diminuer. Donc être une partie de la nature, et c'est au fond ça aussi le versant positif, ça veut dire qu'on participe aussi de cette nature, qu'on est une expression déterminée de la puissance infinie du réel. Qu'on exprime à notre manière cette puissance. On fait effort pour exister, on est une expression de la puissance. Et Spinoza dit au fond, ce qu'on est, c'est une puissance d'agir corporellement et une puissance d'agir psychiquement. Et quand on produit des idées ou quand on réalise des choses, eh bien on exprime les effets de notre puissance d'agir telle qu'elle a été déterminée par beaucoup d'autres choses. Et au fond, ce qu'on éprouve, les affects dont j'ai déjà parlé, les sentiments, l'amour, la haine, la tristesse, la joie, le désir, etc., eh bien, c'est des modifications de cette puissance d'agir. Si je suis une puissance d'agir, cette puissance d'agir, elle peut varier. Quand elle augmente, nous dit Spinoza, c'est joie. Quand elle diminue, quand elle se comprime, quand elle est rabougrie, cette puissance, on dirait aujourd'hui c'est déprime, dépression, bah, c'est tristesse. La tristesse, c'est la diminution de la puissance d'agir. La joie, c'est l'augmentation. Il y a donc ces deux grandes logiques. Vous voulez une flèche vers le haut, l'augmentation de la puissance d'agir, la joie. Une flèche vers le bas, la diminution de la puissance d'agir, la tristesse. Et puis, Spinoza ajoute un troisième affect premier, c'est le désir. Le désir, c'est la puissance en tant qu'elle est déterminée à faire telle action. Si vous voulez, ce serait la flèche horizontale. Et alors, cette distinction entre ces trois affects primaires, joie, désir, tristesse, c'est une distinction avant tout logique. En fait, on éprouve souvent les deux ou les trois en même temps. Et puis même, tout ça se compose dans notre corps, dans notre esprit, pour faire des affects beaucoup plus complexes. En fait, l'ambition de Spinoza, c'est presque de faire une géométrie des affects. C'est-à-dire de montrer comment, à partir de ces trois affects primaires, toute notre vie affective peut être déduite. Il nous dira par exemple, aimer, c'est éprouver une joie avec l'idée d'une cause extérieure. Par exemple, je sais pas, je suis face à la mer, je respire le bon air, j'ai des embruns sur la figure, le coucher de soleil, je le trouve magnifique, etc. Ça affecte ma puissance de telle sorte qu'elle augmente, c'est joie. Bon, mais le soleil commence à bien se coucher, il commence à faire froid, je reçois un peu trop d'eau, je sais pas, quelqu'un passe avec une musique qui m'ennuie, c'est tristesse, bon bah, qu'est-ce que cette tristesse détermine en moi? Le désir d'aller voir ailleurs pour avoir d'autres joies, donc de rentrer chez moi, boire un chocolat, rentrer avec mon chat, je sais pas. Bon. Donc, mais d'une certaine manière, à chaque fois, je suis déterminé à, par mes affects, à persévérer dans mon être et à rechercher de nouvelles joies et à fuir de nouvelles tristesses. La haine étant la tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause. Donc, la haine, ça peut être, en terminologie spinozienne, ça peut être la haine pour un moustique qui vient de me piquer. Ça peut être, bien sûr, parce que c'est la haine que Spinoza travaille le plus, des haines vis-à-vis des individus, dont j'imagine, ou dont je perçois qu'ils sont la cause d'une tristesse, c'est-à-dire d'une diminution de ma puissance. Et comme je suis un effort pour persévérer, eh bien, je fais toutes les actions qui se déduisent de ma nature, soit pour conserver mes joies, soit pour chasser mes tristesses. Et conserver mes joies, c'est souvent conserver, renforcer les causes que j'imagine être celles de mes joies. Et chasser mes tristesses, c'est vouloir éloigner, même détruire, les causes que j'imagine être celles de mes tristesses. Il y a comme ça, pour Spinoza, toute une logique qui fait que là où on pense qu'on a affaire à un embrouillamini complet, c'est-à-dire la sphère des affects, eh bien, en fait, on va montrer que si on arrive bien à démêler les fils, eh bien, de la ligne de la joie, on va tirer, je ne sais pas, le plan de l'amour, et on va envelopper ça du volume du désir. Enfin, on est le géomètre des affects qui essaye justement, à partir de quelques principes affectifs de base, de construire cette vie affective. Mais pas juste pour un effort théorique. Parce qu'il nous dit, plus on comprend la logique de nos affects, et plus, justement, on arrive à, eh bien, à démêler ce qui nous fait mal, ce qui nous mine sans qu'on n'y comprenne rien, ce qui peut vraiment nous convenir, etc. D'autant plus que il y a une logique qui est très forte dès lors qu'on a affaire à des individus, non pas seulement la mer, non pas seulement les embruns, mais des individus, parce que ça, ce sont des individus de la nature, mais des individus dont on imagine qu'ils sont susceptibles d'éprouver des affects aussi. Là, nous dit Spinoza, on entre dans une nouvelle logique, qui est une logique qui va complexifier notre vie affective. C'est la logique de l'imitation. C'est-à-dire, quand on imagine qu'un autre, alors cet autre, ça peut être un être humain, ça peut être aussi un animal. Ça peut être même, je ne sais pas, si vous imaginez que des êtres dits inertes éprouvent des sentiments, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi que vous imaginez éprouver un affect, eh bien vous allez être susceptible d'entrer en imitation par rapport à lui. Alors bien évidemment, si l'individu en question que vous imaginez, cet autre, c'est un individu que vous haïssez, alors vous n'allez pas imiter ses affects. Au contraire, la haine, c'est ce qui bloque la loi de l'imitation des affects. Si vous haïssez quelqu'un, eh bien, imaginer sa tristesse, ce n'est pas éprouver sa tristesse. C'est au contraire s'en réjouir. Ça, c'est une des lois de la haine. La haine, c'est faire effort pour que celui que je hais, je l'imagine avoir moins de puissance. Donc soit parce que je le blesse, parce que je le tue, soit parce que je l'imagine plein de tourments, etc. Donc je fais effort au moins en imagination, nous dit Spinoza, mais parfois même en réalité, pour diminuer la puissance des êtres que je hais. C'est là tout l'effort de mon conatus, de mon effort pour persévérer dans l'être. Donc si j'ai de la haine, je n'imiterai pas. Je n'imiterai pas l'autre, sa tristesse sera plutôt source de joie pour moi, puisque c'est une cause de ma tristesse, ce ne sera pas une source de tristesse. Alors, dans la mesure quand même, peut-être, où cet autre, je l'imagine comme un être semblable à moi, susceptible de souffrir, il y aura peut-être, en même temps que je me réjouirai de sa tristesse, une petite pointe de tristesse en moi. Parce que je me dirais, c'est quand même un homme comme moi. C'est quand même un alter ego. Mais bon, cette petite pointe de tristesse que je peux éprouver à l'imagination de la tristesse de celui que je hais, elle est vraiment compensée par la jouissance que j'ai à imaginer ses tourments. Donc, de toute façon, je m'efforcerai toujours d'imaginer, et peut-être même de réaliser, parce que c'est la meilleure manière de l'imaginer, d'imaginer la tristesse de celui que je hais. Mais pour peu que je ne sois pas dans la haine, Spinoza nous dit, eh bien, si j'imagine un être semblable à moi éprouver un affect, j'éprouverai par là même cet affect. C'est-à-dire que la vie affective se complexifie de cette loi de limitation des affects à l'égard des êtres que j'imagine être semblables à moi. C'est pour ça qu'on a pu parler d'ailleurs chez Spinoza d'une éthique de la similitude. Dans les rapports humains intervient cette loi de limitation des affects qui est fondamentale. Imaginez la tristesse de quelqu'un vis-à-vis duquel je n'éprouvais aucune tristesse au départ, c'est éprouver une tristesse. Alors sans doute en mode mineur, mais c'est éprouver quelque chose comme l'affect que j'imagine être dans l'autre. Et Spinoza a dit, bon, ben, je vais appeler pitié, parce qu'il aime bien définir les affects, mais il n'a rien inventé, je vais appeler pitié le fait d'éprouver de la tristesse à l'imagination de la tristesse d'autrui, de la tristesse de celui que j'imagine être semblable à moi. Encore une fois, avec cette condition que je ne sois pas dans la haine vis-à-vis de cet être semblable à moi. Et bien sûr, si jamais je l'aime, je serai encore beaucoup plus attristé de sa tristesse. Mais si je n'éprouve aucun affect vis-à-vis d'un individu, eh bien, je vais imiter spontanément ses affects, par exemple à travers la tristesse, ou par le rire, qui peut être communicatif. Alors bien sûr, si c'est quelqu'un que je méprise, si quelqu'un dont j'ai absolument envie de me distinguer, je vais certainement pas rire à son rire. Je vais mettre une barrière. Mais si c'est quelqu'un que j'imagine semblable à moi et qui éclate de rire, même si je n'en connais pas la raison, je vais peut-être pas moi-même éclater de rire, nous dit Spinoza. Mais je vais au moins... Il y a quand même une forme de simulation. Alors Spinoza n'avait pas parlé des neurones miroirs, mais il y a quelque chose en moi qui fait que eh bien, je participe de lui. Et je participe de ses affects. Quand bien même je ne l'aimerais pas, alors quand c'est de l'amour, c'est encore plus... fort ces unions. Mais quand bien même je ne l'aimerais pas, le fait est que dès lors que je l'imagine semblable à moi, dès lors que j'imagine qu'il y a une similitude, eh bien, les affects que j'imagine en lui, je les éprouve en moi. Alors peut-être d'ailleurs c'est purement imaginaire hein, parfois. Quelqu'un peut, par exemple, imiter complètement la tristesse, faire semblant de pleurer, pour m'apitoyer. Mais il suffit que j'imagine qu'il soit triste, peu importe qu'il le soit vraiment d'ailleurs. Eh bien, je serai triste. Maintenant, je peux aussi, alors que je vois quelqu'un de triste, me dire « Non, il fait ça justement pour m'apitoyer, etc. » Donc, on a des mécanismes pour se protéger soi-même de la pitié, ou parce qu'on connaît la personne, etc. Mais si on n'entre pas dans ce jeu-là qui peut modérer les affects, il y a cette loi, limitation des affects, qui montre à quel point, pour Spinoza, ma puissance est constituée, et ma variation de puissance est constituée par les variations de la puissance des autres. Et pour Spinoza, d'une certaine manière, on n'est jamais libre de décider d'éprouver ceci ou cela, et même de décider de penser ceci ou cela. Au fond, il n'y a pas, pour Spinoza, de liberté en termes de libre arbitre. Ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est la capacité qui serait complètement indéterminée par rien de se déterminer. La capacité de prendre une décision sans qu'il n'y ait aucune détermination qui vienne de l'extériorité. Pour Spinoza, c'est pas possible. Il n'y a pas de liberté de ce type. Pourquoi ? Parce que nous sommes, encore une fois, une partie de la nature Et cette partie de la nature est nécessairement déterminée par d'autres parties de la nature. Et on n'a rien d'exceptionnel, on n'a pas ce quelque chose qui ferait que l'homme se distingue des autres êtres de la nature par, bah, comme, je sais pas, comme, par le fait qu'il soit l'image de Dieu, ou bon, tout comme ça. C'est un être parfaitement naturel, par sa pensée comme pas. Mais, refusant la liberté en termes de libre-arbitre, Spinoza recherche quand même une liberté, non pas, on va dire, de départ, de donner, mais une liberté de conquête, une liberté à conquérir, une liberté qu'on va plutôt appeler une libération. Une libération par rapport à ses premiers affects qui peuvent parfois nous aliéner, et une libération qui, pour lui, ne se conquiert jamais tout seul, mais qui va se conquérir avec les autres. Et je ne sais pas où j'en suis, ben, je vais sans doute conclure là-dessus, comme ça on va pouvoir discuter. D'une certaine manière, augmenter sa puissance, se libérer, penser, comme il dit, adéquatement, jamais cela ne peut se faire tout seul. La liberté, ça se fait par les autres, par un certain rapport avec l'altérité. Au fond, pour Spinoza, il est possible de penser par soi-même. Il est possible de vivre des choses par soi-même, mais jamais tout seul. Alors, ça ne veut pas dire forcément que l'autre est tout de suite présent physiquement, mais c'est quand même à travers les œuvres des autres, à travers les déterminations des autres, que je vais pouvoir, au fond, m'en sortir. Il n'y a pas de salut, mais c'est toujours un salut immanent, mais il n'y a pas de salut qui soit rigoureusement solitaire. D'une certaine manière, là, Spinoza rompt avec le paradigme cartésien de la pensée qui s'isole dans son poêle, dans sa pièce, pour pouvoir justement affirmer « je pense, cogito ». Pour Spinoza, c'est jamais « je pense », c'est « nous pensons ». Et ou plutôt, c'est « je pense parce que nous pensons ». Et que le « nous », d'une certaine manière, habite ma pensée, et c'est même, d'une certaine manière, nous dit Spinoza, à travers la puissance que j'arrive à trouver dans les autres, que je vais pouvoir me libérer moi-même. Donc, et ça c'est peut-être ancré dans l'ontologie même de Spinoza, il n'y a pas d'échappatoire solitaire, il n'y a pas de salut complètement égoïste. Le salut, c'est toujours mon salut, mais c'est mon salut avec les autres, et non pas, on va dire, dans un geste humain, parce que quand même, il faudrait un petit peu y penser aux autres, mais dans un geste encore égoïste qui est, si tu n'y penses pas aux autres, eh bien, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Si tu n'arrives pas à trouver le bon rapport qui fait que, à travers l'autre, tu seras plus puissant, eh bien, tu resteras toujours aussi impuissant. Voilà. Merci. Donc, on peut en discuter.
Questions, réactions. C'était trop clair.
Ouais, c'est ça. C'est affreux quand il y a la question. Bon, alors en fait, moi, je vais me poser une question, parce que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé quand j'ai lu Spinoza. C'est, Spinoza, ok, je comprends, tu pars de quelque chose comme du déterminisme, au fond. Hein. Il n'y a pas de libre-arbitre, on est toujours déterminé par les autres. Les autres, c'est tous ceux qui composent notre milieu biologique comme notre milieu culturel. Mais d'une certaine manière, comment ça s'enclenche ? Ce passage de la servitude à la liberté ou de la passivité à l'activité, comme il dit. C'est-à-dire que si on est dans l'horizon comme ça de la détermination, s'il n'y a rien en nous, à partir de quoi on va pouvoir tout d'un coup se libérer, comment ça peut se faire et d'une certaine manière, Spinoza nous dira, il y a peut-être des conditions sociopolitiques qui font que le salut éthique est possible ou pas. Alors, Spinoza ne superpose pas complètement l'éthique à la politique. Il ne nous dit pas c'est seulement en faisant de la politique qu'on va se sauver soi-même. Ça, c'est une grande question hein, chez Spinoza, de savoir quel est le rapport entre justement cette recherche éthique de son bonheur, qu'il appelle aussi le salut. Il aime bien utiliser les termes de la religion traditionnelle, mais qu'il va réinvestir. Et puis, justement, la question de la politique, qui l'intéresse beaucoup. Mais d'une certaine manière, si on s'en sort jamais tout seul, ça signifie quand même qu'il faut être... Il y a peut-être des rencontres. Qu'il faut que les choses parfois sont bloquées ou les choses parfois se débloquent. Mais que et ces rencontres, elles sont peut-être institutionnellement, socialement possibles ou pas. Il y a peut-être des lieux ou des périodes qui font que les rencontres qui peuvent activer ma puissance, eh bien, sont beaucoup moins probables que d'autres lieux ou d'autres époques où, je ne sais pas, ça va dépendre du régime politique, ça va dépendre des institutions sociales qui vont permettre ces rencontres et peut-être donc cette activation à la fois de ma puissance d'agir corporelle et de ma puissance d'agir intellectuelle. En même temps, Spinoza, qui était très intéressé par la question politique, je pense qu'il il croit vraiment à une transformation individuelle. Il est beaucoup plus sceptique vis-à-vis des transformations politiques. C'est-à-dire que tendanciellement, il faut essayer d'améliorer les choses politiquement, mais il est quand même assez sceptique avec la révolution, par exemple, avec la question de la révolution, du moins, je dirais, avec la question d'une révolution brutale. Bon, c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il va croire peut-être à des révolutions lentes. Mais comme il dit souvent, quand on change le tyran, on ne change pas la tyrannie. On a un nouveau tyran qui a encore plus peur que le précédent de finir comme lui, et donc qui va être encore plus tyrannique. D'une certaine manière, alors bon, là, je parle de tyrannie, mais c'est dans le rapport vertical au pouvoir. Penser qu'on puisse vraiment, qu'il puisse y avoir un salut politique, il y croit pas trop. J'ai l'impression que chez lui, la politique, c'est quand même toujours, il y a de la rationalité en politique, mais c'est quand même toujours, au fond, les passions collectives, qui sont des passions de haine, parfois d'amour, hein, amour de la patrie, amour de... Bon. Mais c'est surtout des passions d'espoir, de crainte, des passions collectives qui font les unions. Donc il y a des unions politiques qui sont nécessaires, qui sont importantes, mais qui demeurent dans un horizon de passionnalité presque indépassable. En revanche, à l'intérieur de, de ces passions communes qui font qu'on s'associe et qu'on peut améliorer, mais qu'on arrivera peut-être très difficilement à convertir en une rationalité commune, il y a peut-être des unions véritables, inter-individuelles, qui soient des unions très fortes, rationnelles, comme dit Spinoza. Mais la raison, chez Spinoza, c'est jamais le contraire de l'affect. Et même, c'est pour ça que j'utilise des termes un peu différents. Il y a la raison, il y a la passion, mais il y a l'affect. Et l'affect, les passions sont un certain type d'affect. Mais tous les affects ne sont pas des passions. Tous les affects ne sont pas passifs. La raison, au fond, elle est puissante si elle produit des affects. Des affects actifs. C'est-à-dire que Spinoza ne joue pas la raison, comme ça, dans sa pureté, en surplomb, contre l'affectivité. C'est au contraire, il mise sur ce qu'il appelle la raison, l'intelligence de la vie affective. Mais parce qu'elle se fait elle-même affecte. On ne change pas les choses si on n'est pas touché par elle. Et il y a pas... Et plein de choses peuvent nous toucher. Donc, nous dit, au fond, la vérité toute seule, toute crue, en tant que telle, qui n'est pas un affect, elle ne change rien. C'est en tant qu'elle est affective. Et donc, il y a cette idée qu'il y a des conditions politiques qui sont plus ou moins favorables à ce salut éthique. Mais que le salut éthique, c'est quand même quelque chose qui peut se construire, j'ai l'impression quand même, avec des communautés plus petites que des communautés politiques, et où là, il y a des unions qui sont véritablement des unions très fortes qui peuvent se faire, peut-être dans un rapport amical, comme c'était le cas de Spinoza avec Balling. D'une certaine manière, avec l'amitié, ou peut-être enfin, avec certaines formes d'amour inter-individuel, il y a une transformation affective qui est sans doute plus forte pour Spinoza que dans les unions politiques. Même si toutes les unions politiques ne se valent pas, et que certaines sont beaucoup plus... attristante que d'autres. Donc, puisqu'on s'en sort que par les autres, il faut quand même qu'il y ait la possibilité que l'altérité ne soit pas trop attristante. Mais d'une certaine manière, Spinoza nous dit, on expérimente tous, que on a tous éprouvé, on a tous senti en soi quelque chose comme d'indestructible, surtout quand on comprend quelque chose. Une force qui procure, on va dire, que procure l'activité même de comprendre. Et l'activité même de comprendre, chez Spinoza, ça passe aussi par une sensibilité du corps. Au fond, plus je suis dans la passivité, et la passivité pour Spinoza, ce n'est pas le fait seulement d'être en dépression, ça peut être beaucoup d'agitation. Il y a une passivité agitée, il y a une passivité, on va dire, inerte. Mais la passivité, c'est que je produis des effets qui ne s'expliquent pas par ma propre puissance. Et bien, d'une certaine manière, le comble de la passivité, c'est quand je suis complètement pris dans des comportements ou dans des affects obsessionnels et que j'arrive plus justement à me lier avec les autres. Et que je suis pris dans, on va dire, des logiques d'affects qui me dépassent, comme quand on dit la passion, c'est plus fort que moi. Et qui sont des logiques de coupure et non pas de convenance avec les autres. L'activité, c'est justement quand la coupure se rétrécit et que donc les liens vont pouvoir se faire. Et être actif, pour Spinoza, c'est produire des effets qui se comprennent par moi, mais paradoxalement parce que d'autres m'aident et d'autres conviennent avec moi. Tout seul, je n'ai pas tout à fait la force d'enclencher la chose. Et c'est pour ça que chez Spinoza, ce qui m'intéresse, il en a très peu parlé, mais c'est la question des enfants et de l'éducation. Parce que je pense que dans son éthique, il avait dit justement dans le traité de la réforme de l'entendement qu'il faudrait écrire un traité d'éducation parce que c'est absolument important. Mais il ne l'a pas fait. Bon, il est mort quand même. Il avait 43 ans à peine. Donc il n'a pas vécu très très vieux. Et puis, mais cette question de l'éducation des enfants, cette question du rapport intellectuel et affectif à avoir avec les enfants, et puis aussi du développement cognitif ou affectif des enfants, je pense que c'est une question très importante dans son éthique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent justement dans la vie affective d'un individu à ce moment-là. Et quand je disais l'autre habite l'individu, on voit bien que les premières rencontres et les premiers affects sont constitués aussi en grande partie par le rapport que l'enfant a avec son entourage. Alors, pour faire aussi un petit lien avec la psychanalyse, alors peut-être pas lacanienne, mais en tout cas, beaucoup de gens qui s'intéressent à la psychanalyse s'intéressent aussi à Spinoza, parce qu'il y a une matière première. Alors, chez Spinoza, il n'y a pas une élaboration du concept d'inconscient, donc on ne va pas dire Spinoza et la psychanalyse, c'est pareil, mais il y a un petit air de famille quand même, et même Freud le premier disait « Je travaille dans une atmosphère spinoziste, etc. » Donc bon. Freud n'adorait pas les philosophes, donc c'était peu importe. Mais on sent qu'ils ont en tout cas... Ils s'intéressent à des mêmes objets et ils s'intéressent justement à la manière dont un individu est constitué par ses rapports affectifs avec les autres. Parce que c'est ça le cœur. Et comment aussi une transformation de cette matière première qu'est les affects, que sont les affects, comment une transformation de cette matière première est possible. Je pense que Freud croyait à l'idée quand même d'une espèce de transformation, Lacan peut-être un peu moins, mais Spinoza, lui en tout cas, travaille à cela. C'est-à-dire essayer vraiment de comprendre ses affects comme rapport avec les autres pour essayer de les modifier. C'est là l'enjeu d'une vie pour lui. Et si jamais les conditions extérieures sont trop nuisibles, il a l'air de penser que ça va être très difficile. Donc il y a quand même aussi à travailler aux conditions politiques suffisamment favorables pour que les individus puissent s'en sortir. Mais après, c'est aussi à chacun de faire ce travail à partir de ces conditions politiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est cette question du passage, moi, qui beaucoup m'a intéressé chez Spinoza. Comment il arrive dans son système, puisqu'il ne se donne pas l'arme fatale du libre-arbitre, comment il y arrive à penser qu'on va changer sa vie? Et il donne des voies de solution, mais c'est quand même quelque chose qui le travaille pas mal. Alors si j'avais voulu aussi faire un peu de métaphysique, j'aurais parlé du rapport de l'homme avec Dieu chez Spinoza. parce que c'est un grand autre, et en même temps, c'est un autre qui n'est pas extérieur à moi. C'est tout le truc à comprendre chez Spinoza, mais qui est un peu compliqué, c'est que Spinoza ne nous dit pas « nous sommes Dieu ». Non, nous sommes des êtres finis. Alors c'est vrai qu'il a cette formule, en fait, qu'il emprunte à quelqu'un d'autre, et qui dit qu'elle n'est pas idiote, c'est de dire « l'homme est un Dieu pour l'homme ». Mais il ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Non. L'homme est une partie de la nature, est une modification de Dieu. Donc un mode, comme il dit, ce n'est pas la même chose que la substance infinie, pour reprendre son langage technique. Donc on pourrait dire que Dieu est comme une altérité. Mais ce n'est pas une altérité extérieure à moi. C'est l'altérité en moi. Donc Spinoza dira à la fois, il ne faut pas tout confondre, je ne suis pas Dieu, et en même temps, il ne faut pas faire de cette altérité un grand autre qui serait ailleurs. Parce que là, on tombe dans quelque chose... Bon, pour lui, il y a une vérité de la religion, c'est qu'elle voit cette question de l'altérité, de la puissance infinie, etc. Mais elle le voit, il dirait, avec les yeux de l'imagination. Et lui, il essaye de rationaliser ça. Bon, alors, je ne vous cache pas qu'il a eu quand même des ennuis avec les autorités religieuses. Hein. Mais lui a toujours, par exemple, refusé l'étiquette d'athée. Parce que toute sa pensée, c'est vrai, est habitée par la question de Dieu. Il dit, mais je suis, au fond, beaucoup plus proche de la vérité de ce que c'est que Dieu que tous ceux qui sont dans des superstitions et dans des religions de haine. Mais bon, il a quand même subi le RM, il a préféré ne jamais enseigner dans une université parce que on lui a fait la proposition, mais il s'est dit que c'était un piège pour essayer de le contrôler. Et je pense qu'il avait assez raison, là, il n'était pas parano. Mais bon, il était à une époque aussi où, en effet... Il avait un groupe, hein. Il n'était pas complètement solitaire, parce que parfois on imagine Spinoza comme étant le penseur solitaire, etc. Quand on voit, il y a tout un réseau, et un réseau qui l'a aidé, il n'aurait pas pu s'en sortir autrement. Mais ce réseau, c'était un réseau d'amis choisis. Ce n'était pas un réseau institutionnel politique qui l'aurait sans doute plus asservi. Donc même dans des conditions politiques qui n'étaient pas forcément... Enfin, elles pouvaient être aussi favorables, parce qu'il a vécu dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, quand même une période où il y a une liberté de penser et d'exprimer sa pensée qui est très grande. Mais qui est très grande... Enfin, il y a plein de courants, etc. Qui est très grande, mais qui est aussi parfois très violente. C'est-à-dire que... Spinoza a quand même subi quelque chose de très fort. Alors, il semblerait qu'il a subi le RM. Bon, alors, le RM, c'était « Nul ne peut s'approcher de Spinoza, moins de trois coudées, Spinoza est un chien que plus personne ne pourra... » Bon, mais il semblerait qu'avant que les grands rabbins, puisque donc Spinoza appartient à la communauté des Juifs, et le RM, c'est une exclusion, une excommunication, avant que les rabbins ne jettent ce RM, qui est un des rares hein, dans l'histoire de l'humanité, il semblerait qu'ils ont essayé avant de trouver un terrain d'accord, en disant « tu dis ce que tu veux, tout ça, mais tu le dis pas à la synagogue, tes livres, tu les gardes pour toi, tu t'arrêtes un peu ». Il devait être peut-être aussi dans une mentalité un peu de provocation au début, ce qu'il a pu faire après. Mais il n'a pas voulu de cet accord. Bon, il devait quand même, je pense... jeune, avoir une espèce de narcissisme très grand, quoi. L'histoire raconte aussi que son père étant mort, il a fait un procès à sa sœur qui le spoliait d'une partie de l'héritage, et une fois qu'il a gagné l'héritage, il lui a donné. Donc, il y a vraiment... C'est pour faire chier, quoi. Mais, en même temps, il y avait l'idée que... on le prenait pas pour... Et donc, lui, il allait faire sa vie avec autre chose. Mais... Donc voilà, c'est un peu pour dire le personnage. Et il semblerait que dans cette époque un peu agitée aussi, il y a eu le massacre des deux frères de Witt qui étaient des républicains, etc. Bon, Spinoza, ça l'a beaucoup marqué. Dans cette période agitée, où il y avait des conditions pour la liberté de penser, mais aussi des conditions pour la restreindre, il ait pu faire quelque chose comme une œuvre, et une œuvre pas seulement solitaire, mais collective. Il y avait tout un atelier de travail, d'amis qui travaillaient avec ses textes, qui échangeaient avec lui, et lui-même était curieux de plein de sujets. Et puis en plus, il a vécu de ses mains, puisqu'il était taillé des verres optiques pour survivre. Donc, Enfin, il avait des bourses aussi. Hein. Je ne sais pas s'il aurait pu vivre seulement de la vente de ses lentilles pour des lunettes astronomiques. Mais c'était ça, son travail quand même. Et donc une partie de son temps était pour ça, quoi. Donc il avait une vie qui, je pense, est quand même très en écho avec sa pensée, quoi. Est-ce qu'il y a une petite question? Parce que là, je ne fais que parler. Mais...
il y a des grandes oreilles. Mmh.
À 21h10, on a encore un petit peu de temps, si on veut. Oui.
Mais je me suis demandé l'histoire de la pitié, est-ce que ça a à voir avec l'empathie ou pas?
Oui, on pourrait dire que ça a à voir avec l'empathie, mais alors...
ça n'a pas la différence, par
exemple. Oui, mais justement... Aujourd'hui, on fait une distinction entre, on va dire, empathie et sympathie. L'empathie, ce serait le fait de pouvoir, au fond, se mettre à la place de l'autre sans être affecté par l'autre. Alors que la sympathie, au sens plus technique, ce serait vraiment éprouver le même pathos, sum pathos, que l'autre, au sens technique. Empathie, ça veut dire que j'arrive à percevoir ce que l'autre éprouve, mais voilà, ça ne me touche pas. Et la sympathie, ça pourrait donner lieu à la compassion, ça c'est le terme latin. Mais chez Spinoza, justement, cette distinction, elle n'existe pas, parce que pour lui, c'est pas vrai qu'on peut se mettre à la place de l'autre en se disant même pas mal. Alors bien sûr, peut-être dans des conditions comme des conditions de laboratoire, où on peut-être... on a un désir qui est le désir de faire une recherche, par exemple. Mais en tant, par exemple, que l'autre est imaginé comme un être semblable à soi et pas seulement comme une machine, s'il souffre, on aura au moins une petite pointe de souffrance. Oh, il y a eu pas mal d'expériences là-dessus, hein, sur jusqu'à quel point on est capable de faire souffrir les autres pourvu qu'on ait la protection d'une autorité scientifique. Il y a eu des expériences comme ça où on disait à des gens, bon ben vous allez envoyer par exemple une décharge électrique à telle personne, puis on va mesurer jusqu'où elle peut supporter cette souffrance. Et puis en fait, ce qui était expérimenté, c'était pas du tout la personne, parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de décharge électrique, mais c'était jusqu'où la personne, elle, est capable d'envoyer des décharges électriques en faisant souffrir quelqu'un. La plupart s'arrêtent au bout d'un certain moment, mais il y en a pas mal, il y en a quelques-uns qui continue parce que il demande, j'ai le droit, oui, bah boum, 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 et donc l'autre simule une souffrance affreuse. Mais pourvu qu'il y ait cette autorité scientifique avec un protocole de recherche, etc., on est capable d'aller assez loin là-dedans. Donc tout ça pour dire que là, on pourrait se dire, oui, c'est une expérience plutôt peut-être d'empathie, la personne, sans qu'il y ait sympathie. Mais je pense que c'est parce que là, la personne, elle est vraiment investie d'une autorisation, elle est dans un désir de même faire bien, de se plier à ce qu'a demandé un médecin en blouse blanche avec son autorité, etc. Mais pour Spinoza, dès lors que je ne suis pas aveuglé, justement, par un certain affect qui me fait oublier que l'autre est un être semblable à moi, eh ben j'éprouve l'affect que lui-même éprouve. Mais bien sûr, il y a des possibilités d'écran. Alors la haine, c'est l'écran le plus fort, hein, je l'ai dit. C'est-à-dire que si l'autre, c'est quelqu'un que je hais, eh bien le voir, je ne sais pas, dans d'affreuses souffrances... Bon, je ne sais pas si je le vois, si je vois que sa main est transpercée à celui que je hais, j'aurais quand même un petit rictus de « Ah, ça me fait un petit quelque chose ». Mais c'est quand même mon ennemi. Donc ce sera très compensé par « c'est bien fait pour lui ». Et donc, mais si c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je vais spontanément avoir de la pitié, dit Spinoza, et de cette pitié va naître un désir qu'il appelle la bienveillance, c'est-à-dire de porter secours à la personne que je vois. Voilà, alors pour les phénomènes politiques qui nous intéressent, je sais pas, les réfugiés, etc., ben on peut se dire qu'à la fois, il y a l'autre comme semblable, puis il y a l'autre aussi comme nuisance. Et donc si je pense, si j'imagine que l'autre est une cause de tristesse possible, se dire, je sais pas, l'autre est un voleur, l'autre va déranger ma vie, l'autre, etc., eh bien la pitié que je vais peut-être éprouver quand même en mode mineur, elle sera complètement barrée par des affects de haine. Haine plus ou moins grand, hein, mais pour peu que j'imagine l'autre comme étant cause d'une tristesse possible en moi, je vais le haïr pour Spinoza. La haine, c'est ça, c'est cet affect-là. Et bien la haine fait que ma pitié sera amoindrie. Alors, je dis beaucoup de choses sur la pitié, mais l'éthique de Spinoza, c'est certainement pas une éthique de la pitié. Il nous dira quand même dans un texte, celui qui n'est mu ni par la pitié, ni par la raison, c'est à bon droit qu'on peut le dire inhumain. Donc on se dit, tiens, là, il trace une frontière, parce qu'au fond, comme l'homme n'est pas une partie, on pourrait se dire qu'il n'y a jamais de différence de nature entre un homme et un animal, il y a des différences de degré. Et puis Spinoza dira, on n'est pas vraiment supérieur aux animaux. Il y a des choses qu'on sait faire, et d'autres qu'on ne sait pas faire. Par exemple, je sais pas, il nous faut beaucoup d'énergie et inventer des machines, etc., pour, je sais pas, tisser une toile. Ce que va faire une araignée de manière assez spontanément. Donc, sous le rapport de l'acte tissage de toile, je suis beaucoup plus impuissant qu'une araignée. Mais sous d'autres rapports, je suis plus puissant qu'elle. D'ailleurs, je peux l'écraser, mais bon, une araignée qui a du venin peut aussi me tuer. Donc, ça dépend des rapports. Mais c'est pour ça que chez Spinoza, il n'y a pas vraiment de. On n'est pas toujours. Il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas en train de dire, lui, il vaut plus que, etc. Ça dépend du rapport. Alors il dira, il vaut mieux utiliser sa raison que pas utiliser. Là, on devient plus puissant. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas faire une morale comme ça de classement des êtres, mais surtout de développer cette éthique. Mais cette éthique, c'est pas une éthique fondée avant tout sur la pitié par rapport aux autres. Il nous dit au fond la bienveillance qui est le désir de venir en aide au l'autre. Ça peut naître soit de la tristesse, soit de la joie. Ça naît de la tristesse quand j'ai pitié. J'ai pitié de l'autre, j'imagine sa tristesse, je vais lui venir en aide. C'est déjà pas mal d'avoir pitié. Il y en a qui sont tellement pris par la haine qu'ils n'ont même pas cet affect-là. Mais au fond, Spinoza nous dit, cette même bienveillance vis-à-vis de l'autre, on peut l'avoir beaucoup plus, en étant beaucoup plus puissant. C'est-à-dire en étant mu par des affects de joie. Parce que je comprends en quel sens, par exemple, venir en aide sera bien plus utile que ne pas venir en aide. C'est donc pas la tristesse qui me motive, et ni par pitié d'ailleurs, on fera les choses moins bien. D'ailleurs, si les autres sentent qu'on a pitié d'eux, déjà, ça va mal se passer, parce que les gens veulent bien parfois qu'on les aide, mais certainement pas en ayant pitié. Ils ne veulent pas faire pitié. Il y a cette idée chez Spinoza, bien sûr, de lier un lien avec les autres, mais par joie bien plus que par tristesse. Et donc, il nous dira, la pitié ne convient pas avec la raison. Si vous n'avez pas la rationalité, si vous n'avez pas cette force d'âme qui fait que vous venez en aide aux autres, mais plus par joie et par puissance que par tristesse, eh ben autant avoir la pitié, c'est déjà pas mal. Celui qui a ni la pitié ni la raison, il n'est pas humain. Mais l'éthique spinoziste, c'est justement de développer une bienveillance par la joie et non pas une bienveillance par la pitié. Donc il nous dira, la pitié, c'est pas un affect rationnel. Et comme le repentir, enfin là, il se démarque complètement d'une certaine morale, enfin de beaucoup de morale. C'est-à-dire que le repentir, par exemple, se dire, ah, j'aurais pas dû faire. Bon. Du repentir, c'est deux fois triste. On a fait une connerie, et en plus on s'en veut d'avoir fait une connerie. Donc c'est certainement pas, ça convient pas avec une éthique rationnelle. Et il y a du repentir. Alors, en même temps, il dit que parfois des gens aient un peu honte de ce qu'ils aient fait, qu'ils se repentent. Ben, ça peut-être, ça parfois, ça les calme, ça calme leur orgueil. Politiquement, ça peut avoir un usage, mais éthiquement, ça n'a aucune validité pour moi. Le repentir ne fait pas partie des affects que je veux entretenir. C'est un affect de tristesse. De la même manière, la mauvaise conscience. Alors, c'est des choses qui avaient beaucoup plu à Nietzsche, justement, parce qu'il disait, bon, ben là, on a quand même le développement d'une éthique un peu supérieure à la morale traditionnelle, qui, justement, insiste beaucoup sur tous ces affects de tristesse, sur toute la conscience de ma faute. Et chez Spinoza, au fond, il dit, bon, on s'en sort pas comme ça. C'est pas en faisant honte aux gens qu'ils sont plus heureux et qu'ils vont faire autrement. Alors bon, c'est plus compliqué. Parfois, il dit, c'est peut-être, on peut parfois peut-être utiliser ces ressorts-là. Mais c'est plus pour calmer, c'est plus politique. C'est certainement pas, n'imaginons pas que ça va faire du bien aux gens et que ça va les faire agir autrement. Ça peut être les calmer un certain temps, ça a peut-être, bon. Mais ça va pas les transformer fondamentalement. Donc ça peut être une valeur politique, certainement pas une valeur fondamentale du point de vue éthique. Et c'est pour ça que il essaye vraiment de développer une éthique de la joie en soi et pour l'autre. C'est-à-dire, et parfois, vaincre l'autre, mais par la joie et non pas par, et non pas par la haine ou par la tristesse. Et donc, d'une certaine manière, c'est assez intéressant de voir que il est très proche d'une pratique commune et en même temps, il renverse pas mal de pistons, de petits ressorts affectifs qu'on utilise d'ordinaire en pensant que bon, bah, c'est ça. Et pour l'éducation, par exemple, de l'enfant, c'est très intéressant. Qu'est-ce que serait une éducation qui ne se passe eh ben, de la honte, de la mauvaise conscience, du repentir? Est-ce que parfois, c'est pas utile? Parce que si on n'utilise pas ces ressorts affectifs-là, c'est difficile d'avoir une éthique de la compréhension et du développement de la connaissance avec des enfants qui, pour beaucoup, enfin en tout cas à un certain âge, sont pas capables de comprendre les choses. Donc le rapport, là, il est intéressant parce qu'on n'est pas dans un rapport purement politique où on peut se dire on est dans l'horizon de la passion, donc bon, on est dans l'horizon quand même d'un développement éthique, mais avec des êtres avec lesquels il faut peut-être parfois utiliser des ressorts passionnels. Et donc, il faut complexifier le rapport. C'est intéressant. Mais d'une certaine manière, Spinoza valorisera toujours, même avec les enfants, les rapports affectifs joyeux et non pas les rapports affectifs tristes. Je ne pense pas que vraiment un enfant peut, mais bon, ça paraît tellement évident en même temps, s'épanouir et se développer cognitivement, affectivement, dans des formes de diminution ou de contention toujours recommencée de puissance. En même temps, bon, quand on a un enfant de 3-4 ans, on sait que. Si on ne contient pas la puissance, on n'arrive pas à grand chose non plus. Donc, il faut savoir attrister aussi. Mais ça ne doit pas être l'horizon. En fait, Spinoza parle peu des enfants. Et puis, même, il est un petit peu dans le préjugé de l'époque que, quand même, les enfants, bon, c'est pas non plus des êtres philosophiquement très intéressants. Donc, il en parle pas beaucoup. Et en même temps, il a voulu faire cette science de l'éducation. Donc, il a des petites phrases comme ça sur les enfants qui sont en apparence un peu assassines. Et en même temps, on sent que la question le hante, parce que ça revient tout le temps. Et que dès qu'il y a des points un peu cruciaux, il dit, bon, ben voilà, un enfant dans ce cas-là, etc. Donc on sent qu'au fond, il est à la fois pris par le préjugé de son temps, qui fait que non, les enfants, on n'a pas à les considérer, c'est un peu comme des fous, ils font un peu n'importe quoi. Bon. Et en même temps, c'est plus compliqué que ça, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qu'a très bien vu un psychologue de l'enfance, qui n'est pas très connu en France. Mais qui a beaucoup discuté Piaget, qui s'appelle Vygotsky, qui a encore vécu moins longtemps que Spinoza, qui est mort comme lui de la tuberculose. Il est né en 1896, il est mort en 1934, donc il a vécu 38 ans. Il a une œuvre considérable, c'est un Russe. Il a beaucoup été traduit en anglais, dans le monde anglo-saxon, peu en France. Et c'est un psychologue spinoziste. Donc, si je vous en parle, c'est que lui s'est pris à bras-le-corps la question de l'enfance. Et ce qu'il reproche justement à Piaget, en tout cas au premier Piaget qu'il a lu, parce que Piaget est né la même année que lui en 1896, sauf que Piaget est mort dans les années 60, donc il a même plus tard, il a dû vivre, oui, non, non, il est mort en 1980, bon, donc il a vécu plus de 80 ans. Mais ce qu'a pu lire Vygotsky, c'est les ouvrages des années 20 de Piaget, donc le premier Piaget, le jeune Piaget, et il lui reproche de ne pas montrer comment l'enfant, à partir de lui-même, arrive à développer sa pensée logique. Je comprends appeler sa pensée rationnelle. Il dit au fond, chez Piaget, c'est toujours la socialisation, c'est-à-dire l'extériorité, qui va se substituer à la pensée spontanée de l'enfant. Alors, quand on regarde les œuvres ultérieures de Piaget, il y a quand même tout un travail de l'enfant qui va assimiler, accommoder ses catégories de pensée. Ça ne s'impose pas de manière brute. Mais c'est vrai que chez Piaget, il y a quand même un peu cette tendance à dire l'enfant, il est dans une pensée égocentrique, c'est son grand terme, et cette pensée égocentrique, elle est un peu autistique. C'est-à-dire repliée sur elle-même, elle pense selon elle-même, elle n'est pas logique. Donc l'enfant, il est dans son monde, il est un peu coupé des autres, et s'il va accéder peu à peu à la logique, c'est parce que des adultes, d'autres, vont l'amener à penser autrement. Mais c'est vraiment un choc. Il faut qu'une nature extérieure se substitue presque à la nature de l'enfant pour que l'enfant arrive à sortir justement de cette pensée égocentrique. Vygotsky dit, au fond, c'est ça se passe pas vraiment comme ça. Piaget ne nous montre pas comment l'enfant vraiment se développe, comment ça part aussi de lui. Bien sûr, Vygotsky est le premier à dire, on dit que c'est un psychologue social, c'est-à-dire il est le premier à dire que c'est l'enfant au milieu des autres qui importe. Mais il nous dira, au fond, c'est pas la socialisation, c'est-à-dire le fait que l'individu part du repli sur lui-même, de la phase autistique, pour aller, en passant par la phase égocentrique, pour aller vers la phase logique, c'est-à-dire l'ouverture à autrui par les autres. Il nous dit, c'est dès le début que l'enfant est constitué socialement, par le rapport à la mère, au père, etc. C'est la socialisation, elle est là dès le début. Et il dit au fond, c'est pas, on part pas de l'individu pour aller au social, on part toujours du social pour aller au plus individuel. Le développement de l'enfant, c'est l'individualisation du social plutôt que d'être la socialisation d'un individu. C'est pas un individu qui est arraché de son repli sur lui-même et qui va vers les autres. C'est un social qui est toujours déjà là, on est constitué par exemple, mais qui va s'individualiser petit à petit, qui va devenir de plus en plus lui-même. Et il faut comprendre comment, au fond, le social s'individualise. Donc il renverse ces choses et il utilise Spinoza un petit peu, il utilise d'autres, mais pour essayer de montrer ça en disant il faut d'une certaine manière montrer comment l'enfant se développe à partir de sa propre puissance, tout en étant bien sûr constitué aussi par les autres. Et il insiste beaucoup sur quelque chose, Vygotsky, c'est sur ce qu'il appelle le langage égocentrique. Qu'est-ce que c'est que le langage égocentrique? C'est quand l'enfant se parle à lui-même. Ça existe beaucoup plus, il dit, ça existe aussi chez les adultes. Il y a plein d'adultes qui se parlent à eux-mêmes. Alors, se parler à soi-même, c'est, on l'entend par langage égocentrique, des paroles qu'on verbalise vraiment. Et l'enfant, Vygotsky, se parle beaucoup à lui-même. Mais c'est quelque chose qu'il va chercher chez Piaget, parce que Piaget avait déjà vu que l'enfant avait un haut niveau de langage égocentrique, c'est-à-dire une parole qui s'adresse à lui-même. Sauf que Piaget disait, cette parole, elle accompagne l'activité, mais elle ne la modifie pas. Pourquoi? Parce que le langage égocentrique, c'est comme une musique d'accompagnement, c'est pas quelque chose qui, en profondeur, change l'enfant. Vygotsky dit non. Il faut vraiment voir en quel sens le langage égocentrique est un instrument pour l'enfant pour vraiment modifier son activité. Et ce que faisait Vygotsky, c'est que il observait les enfants dans une activité, un peu une activité machinale, ils dessinaient, etc. Et puis, par exemple, ils cassaient le crayon. Et puis, ils le laissaient à l'enfant. Et puis là, ils voyaient que l'enfant disait, oh, le crayon est cassé, comment je vais faire? Alors, je vais prendre l'autre crayon. Et l'enfant commençait à se parler. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de trouver des moyens de résoudre le problème auquel il avait affaire. Ah, le crayon est cassé, il va falloir que. Alors, bon, je vais peut-être faire comme ça, je vais appuyer plus. Alors, tout ça, il le parlait à lui-même, mais il disait, c'est pas du tout un accompagnement, c'est au contraire une manière pour lui-même de tenir des raisonnements avec soi-même. Et donc, il s'agit de montrer comment l'enfant est vraiment affecté par une épreuve et utilise le langage pour justement essayer de résoudre ses propres problèmes. L'air de dire donc que. Ce langage égocentrique, c'est pas du tout un fou qui parle tout seul. C'est pas non plus une parole qui est juste une musique d'accompagnement décorative qui a pas grand intérêt. C'est vraiment un instrument, un outil pour essayer d'être plus actif. Et c'est pas du tout des choses que disait Spinoza, mais ça a un esprit très spinoziste, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même toujours d'être attentif à la positivité de la puissance qui est à l'œuvre, et non pas seulement à ses limites, et de voir que bien sûr le social est très important. Et puis, y a bien une interaction avec une altérité. Mais c'est à partir quand même de ce que l'enfant est capable de faire. Alors, sur sa vie affective, je ne sais pas si l'enfant peut... Mais le geste de Vygotsky, c'est quand même de voir... Parce que pour Piaget, avant 7-8 ans, l'enfant n'est pas capable de penser logique. En tout cas, c'est vrai dans les premiers écrits. Vygotsky dit, c'est pas vrai. Face à des problèmes, les enfants ne sont pas capables de penser logique par rapport à des problèmes qui les dépassent complètement et qui n'intéressent pas leur vie. Si vous leur demandez pourquoi la Lune, elle tient toute seule là, dans l'espace, ils ne vous y sauront pas. Ils vont inventer des trucs un peu bizarres, complètement illogiques. Bon. Il dit, d'accord, mais parce qu'ils n'en ont aucunement besoin de savoir ça. En revanche, si vous leur posez un problème qui intéresse vraiment leur activité pratique dans laquelle ils sont vraiment engagés, là, ils vont trouver plein de solutions qui sont tout à fait intéressantes. Et le langage égocentrique leur permet justement de se formuler, de tester, de voir comment on va résoudre les problèmes. Et la thèse aussi de Vygotsky, c'est qu'au fond, le langage intérieur, tout ce qu'on se raconte à soi-même, c'est une intériorisation de ce langage égocentrique. C'est qu'avec... Être adulte, c'est un peu intérioriser ça. Mais quand on se parle, c'est ce qu'on fait. On se tient des raisonnements avec soi-même. C'est ce que fait l'enfant, sauf qu'il le verbalise et qu'il en a besoin. Et après, bon, parfois, quand on est tout seul, ça nous arrive aussi de recommencer à parler tout seul. Et on dira parfois, il est fou, il est folle, celle-là. Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on fait tous, sauf que on l'a intériorisé. Donc, on ne va pas du tout du langage intérieur vers le langage extérieur de communication. On va au contraire du langage de communication au langage intérieur. Les paroles qu'on se tient à soi-même, c'est jamais qu'une intériorisation de la fonction de communication du langage extérieur. Et moi, ce qui m'intéresse justement, parce que chez Spinoza, il n'y a pas beaucoup de choses sur les enfants, c'est d'aller chercher chez Vygotsky de voir comment justement il pense ce développement des enfants à partir, comme dit Vygotsky, de leur auto-mouvement. Que ça vient aussi d'eux. Ça vient jamais complètement d'eux, mais ça vient aussi d'eux. Et ça vient aussi d'eux, et c'est pas imposé comme ça de l'extérieur. Et au fond, Vygotsky dit, c'est parce que Piaget croit que le social, c'est une contrainte, que c'est extérieur. Mais le social, ça nous constitue. C'est en nous. Donc ça, c'est vrai que c'est par l'autre. Mais par l'autre, en tant qu'il l'est en moi, presque. Le langage, je ne l'ai pas inventé tout seul. C'est quelque chose du commun qui me constitue. Je vais être avec des mots, avec des catégories, avec des phrases qui sont de l'altérité intériorisée. Donc je suis fait de cette altérité-là que je vais peu à peu individualiser. Donc c'est de ça qu'il faut partir, de l'altérité en moi qui me constitue, plutôt que de cette altérité extérieure à laquelle j'accéderai petit à petit. Donc on est dans ce mouvement-là.
Est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce qu'on appellerait l'inconscient collectif ?
Ouais, certains l'ont fait. On dit avec Spinoza, on a un bel exemple. Bon, c'est aussi Jung qui travaille beaucoup sur ces questions d'inconscient collectif. Oui, on pourrait dire que d'une certaine manière. Alors, c'est jamais radicalement inconscient chez Spinoza. J'ai conscience de petites bribes. Mais Spinoza, bon, une des grandes formules, c'est si je me crois libre, c'est parce que j'ai conscience de mes volontés, de mes actes. Mais que je suis ignorant des causes qui me déterminent à vouloir et à agir. Donc je crois que ça vient de moi. Ben, d'une certaine manière, cette ignorance, c'est une inconscience. Je suis inconscient de causes qui sont collectives et qui me constituent. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est un inconscient, mais que je suis inconscient de ça qui est là et dont je peux prendre conscience. Si je dis que c'est un inconscient, à la manière de la psychanalyse, ben, par définition, je ne pourrais jamais en avoir conscience. Je pourrais avoir conscience peut-être des effets de cet inconscient, mais l'inconscient, ce serait quelque chose qui reste quand même dans un arrière-fond. Bon, chez Spinoza, il n'y a pas vraiment cette idée d'un inconscient de nature. Il y a l'idée qu'il y a des forces collectives. Voilà, il parlerait plutôt d'une puissance, d'une force collective, d'un imaginaire collectif qui me constitue, dont je suis inconscient au départ et dont je peux peu à peu prendre conscience. D'autant mieux que j'arrive à mieux agir avec cette chose-là. Parfois, je resterai complètement inconscient, d'autres fois, je serai plus... Mais l'inconscience, ou le fait d'être inconscient, c'est plus l'individu par rapport à cette force collective que cette force collective elle-même. Elle n'est pas, d'une certaine manière, elle n'est ni consciente ni inconsciente. Elle est là, elle nous fait agir. Mais c'est vrai que Spinoza pense qu'il n'y a pas que des individus, justement. il y a aussi du collectif qui a une réalité. Je dis ça parce qu'en sociologie, on a les individualistes méthodologiques qui pensent qu'il faut partir qu'il n'y a que des entités individuelles, au moins à titre de méthode, et d'autres qui ont une pensée plus holistique, qui pensent qu'il existe des corps collectifs, mais que ça existe, quoi, qu'une société, c'est pas seulement une collection d'individus, ça dépasse les individus. C'est quelque chose. Je rencontre pas la société, je rencontre des individus, mais elle existe. Et elle existe peut-être même beaucoup plus réellement que les individus que je rencontre parfois. Et ben, Spinoza serait assez proche de cette idée. Les choses collectives existent aussi. Et ils agissent à travers des individus. D'ailleurs, en termes spinozistes, l'individu, c'est un corps composé. Donc je suis un individu, mais le corps collectif qui sera composé de mon corps et des autres corps, c'est un individu d'une certaine manière. L'individu, c'est un corps composé, donc il y a le mien, mais il y a la table, et puis on pourrait dire, je ne sais pas, tel ou tel groupe, telle ou telle société, elle est composée d'individus. Alors c'est vrai que c'est des compositions qui sont instables, et des compositions souvent affectives, c'est-à-dire, je ne sais pas, il peut y avoir un groupe qui va chanter en chœur lors d'un match de foot l'hymne à la gloire de son club, ben on pourrait dire que là, il forme une chose singulière, presque peut-être même un individu. Spinoza dit, j'appelle chose singulière le fait que plusieurs individus concourent à une même action et produisent un même effet. Eh bien, on pourrait dire qu'une équipe qui joue, c'est une chose singulière. Peut-être que pour Spinoza, quand on est vraiment très unis, cette chose singulière, on peut l'appeler presque un individu, et un individu collectif, justement. Bon, mais tout ça pour dire qu'en tout cas, là où vous avez raison, c'est qu'il y a ces forces collectives qui me déterminent, qui me produisent, mais qui peuvent être ressaisies par moi. Ce sont des sources, mais qui peuvent devenir des ressources, d'une certaine manière, qui peuvent être reprises par moi, dont, que je peux comprendre, et que j'arriverai d'autant mieux à convenir avec ça, ou à lutter contre les forces qui peuvent me nuire, que justement je serai au clair avec elles. Je suis d'autant plus agité par elles que je ne les comprends pas. Je suis d'autant mieux en correspondance avec certaines et en opposition avec d'autres que j'arrive justement à bien les saisir. Donc ce ne sont pas des forces inconscientes par définition, elles sont juste inconscientes temporairement pour moi. Et puis de toute façon, comme je suis une partie de la nature limitée, j'arriverai jamais à tout comprendre. Tout est intelligible pour Spinoza, il n'y a pas de mystère de la nature fondamentale. Mais en même temps, étant donné que je suis une toute petite partie, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais ça ne doit pas nous désespérer de ce qu'on comprend, nous dit Spinoza. On comprend peut-être un tout petit îlot de choses dans un univers d'ignorance, mais ce qu'on comprend, on va essayer de bien le comprendre et de l'augmenter petit à petit. Et collectivement, on peut y arriver. Mais lui, le fonds de commerce des superstitieux, comme il dit, c'est justement d'invoquer tout ce qu'on ne connaît pas pour faire parler ce qu'on ne connaît pas et cultiver les passions tristes en disant « tu ne dois pas connaître, qui accroît son savoir accroît sa douleur », ça c'est une formule de l'Ecclésiaste, dans la Bible. Et Spinoza, il est... En fait, il reprend cette formule, qui accroît son savoir, accroît sa douleur. Mais il nous dit, je ne dis pas ça pour dire que celui qui va tenter de comprendre est plus impuissant que celui... Donc il dit, il y a une vérité là, dans la Bible. Mais pas une vérité comme on le croit d'habitude. Certains interprètent, qui accroît son savoir, accroît sa douleur, qui est une formule, en effet, donc, du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, comme étant un interdit de développer sa raison. Et au fond, ça revient au péché originel. Le péché originel n'étant pas la curiosité, mais l'orgueil de penser qu'on peut savoir ce qui est bien et mal à la place de Dieu. Et donc, en goûtant de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, eh bien, on va savoir les choses, alors que ça va nous rendre plus malheureux. Donc, il faut savoir que notre raison est limitée, et donc il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de chercher à comprendre, etc. Spinoza lui dit « Non, ce n'est pas ça ». Mais ce qui va arriver, c'est qu'il y aura toujours une étape malheureuse. C'est-à-dire que plus on accroît son savoir, et plus on va se rendre compte l'immensité de l'ignorance et de son impuissance à soi. Et donc, il nous dit, au fond, il y a une vérité, c'est que Et c'est ce que disait aussi Hegel, il y a une phase de conscience malheureuse dans celui qui petit à petit devient actif. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite que ça va être super réjouissant. Surtout, comme il dit, je vais voir le meilleur, je vais l'approuver, et puis je vais faire le pire. Ça, c'est systématique parce que le pire, c'est souvent ce qui m'attire le plus. Et au fond, il nous dit, la servitude, elle est d'autant plus grande que se développe la raison. Mais pourquoi ? Parce que j'ai conscience de cette servitude de plus en plus. Donc je me sens de plus en plus aliéné. On pourrait dire, l'imbécile heureux n'est pas trop esclave parce qu'il ne se sent pas esclave. Donc ça n'existe pas, cette servitude pour lui. En revanche, celui qui commence se rend compte à quel point ça va être difficile, se rend compte à quel point il voit bien ce qu'il devrait faire, mais il n'y arrive pas. Et ça, c'est... Ça montre sa puissance, parce qu'il est déjà, il comprend. Mais ça montre aussi l'étendue, ça lui montre l'étendue de son impuissance. Et donc, Spinoza dit, nous avertit d'une certaine manière. Il y a quand même une vérité dans la Bible, c'est que il y a cette phase de négativité. Où il faut savoir ce que peut la raison et ce qu'elle peut pas. Et elle peut pas tout. Mais ça veut vraiment pas dire qu'il faut commencer à interdire de connaître. Il s'agit juste de savoir que ça va être assez difficile ce chemin-là, mais que ça en vaut la peine. Avec cette dernière phrase, et j'arrête là-dessus, de l'éthique, qui est « Ce n'est pas parce que je restreins mes penchants, mes pulsions, mes passions, que je goûte à la béatitude, mais c'est parce que je vais goûter à la béatitude que j'arriverai justement à me libérer de tout ça. » Donc il s'agit en effet, à la manière d'un moral traditionnel, d'en finir avec certaines pulsions, certains affects passionnels qui peuvent nous miner ou qui... Mais c'est certainement pas parce que je les aurai contenus que je vais en jouir d'une forme de salut, de béatitude, mais c'est parce que petit à petit je vais goûter à cette joie très forte, que je vais avoir la puissance de me défaire, ou que même ça va tomber, soi-même, certains affects qui étaient nuisibles. La morale traditionnelle, c'est arrête de faire ceci pour essayer de goûter autre chose. Spinoza, c'est plutôt goûte autre chose, tu arrêteras de faire ceci. Voilà. On s'arrête là. On va goûter autre chose. De rien.